The vibes.
R2 tout le monde. Distant islands, spectral cities.
Bon ben bienvenue dans cette session de l'après-midi. J'ai le plaisir de, après cette séance de ce matin avec Françoise Vergès et Samora Curier, où on a tracé un petit peu une espèce de premier... mais il y a les images aussi. On a tracé une première... un début de cartographie des années 60-80 aux Antilles pour aussi réfléchir à des motifs aussi de lutte, de résistance et aussi aux questions de transmission ou de rupture de transmission. Cet après-midi, moi j'avais le désir qu'on entre de plein pied sur cette question de la diaspora, qu'on arrive à Paris dans les années 80. Et pour ce faire, on va commencer la session de cet après-midi avec Jeramier et Chuck Wan nous rejoindra en fait tout à l'heure. Pour raconter aussi un petit peu ces années 80 et aussi autour de la pratique notamment du graffiti et d'un parcours qui est ton parcours d'artiste qui part de là et qui part dans d'autres directions par la suite, en essayant aussi de l'inscrire dans la perspective d'une époque, les années 80, qu'on a évoquée ce matin aussi comme une époque tumultueuse des Antilles. Et donc, moi, dans le travail que j'ai voulu élaborer pour cette recherche collective, j'avais envie d'inviter certaines personnalités artistiques et culturelles comme toi, comme Chuck et comme d'autres, à réfléchir avec moi à quelque part les liens, parfois très, comment dire, ténus, qu'on entretient avec cette histoire antillaise, et comment, en fait, la diaspora, elle, va créer peut-être un nouvel épisode antillais, pas toujours facilement lisible, parfois plein de détours. Et je trouvais que présenter ton travail était une belle manière de montrer comment justement se construisaient ces détours. Donc là, on est aux années 80, qui est un peu le nœud aussi de la recherche Distant Island Spectral Cities, non pas pour y rester bloqué, mais plutôt pour y voir un moment, un point névralgique à partir duquel on va circuler dans l'espace et le temps. Jay, bienvenue. Honneur et respect de t'accueillir.
Merci Olivier, merci donc pour l'invitation. Et merci à Ulip aussi et à toutes les personnes associées donc à cet événement. Donc je m'appelle Jeramier, je fais partie de la diaspora antillaise. Quoique je suis né en Guadeloupe, les gens ont tendance à l'oublier en pensant que je suis né ici. Je suis né en Guadeloupe et je suis arrivé ici... très jeune âge, et donc ce qui a créé un peu de la schizophrénie chez moi, chose assez naturelle chez beaucoup d'Antillais, surtout francophones. Bon, cette schizophrénie s'est plus ou moins accentuée parce que je suis arrivé ici très jeune, donc déraciné, posé dans un espace qui m'était pas familier du tout, historiquement, culturellement. Bref, donc je vais vous présenter qui je suis à travers mon travail et en même temps on va essayer de faire un lien entre cette diaspora, les traditions et les histoires antillaises qui me tiennent à cœur et les années 80, donc toujours dans la schizophrénie.
Après on ira au-delà de ces années-là, mais c'était bien de trouver ce point focal qui me semble être important au moment où émergent aussi des signes dans la ville. On a parlé juste ce matin avec, et c'était une coïncidence, mais il n'y a pas de coïncidence en réalité, on a parlé avec Samora Curier du fait que son père avait été en prison pour avoir fait des graffitis sur des murs à la Guadeloupe. Donc ça, je me disais que c'était aussi une belle manière de démarrer ce dialogue.
C'est la première diapo. Alors bon, là on n'est pas dans le graffiti, mais je tenais à commencer avec cette première image en fait qui est une image qui représente une installation que j'ai faite très récemment. Donc c'est une des dernières expositions que j'ai faites, et dans cette exposition qui a eu lieu au Palais de Tokyo, j'ai été invité en tant que street artiste ou graffeur. Mais comme je suis un peu indépendantiste dans ma tête à titre personnel, j'ai voulu prendre le contre-pied et montrer un peu qui j'étais réellement, quoi. Donc c'est un travail aujourd'hui qui est très important pour moi, c'est de montrer qui je suis, d'où je viens. Alors je suis antillais sans vraiment l'être, je suis guadeloupéen sans vraiment l'être, américain, parce qu'on a tendance à l'oublier, sans vraiment l'être, parce que les Antilles se trouvent coincées dans les Amériques. Et quand je dis les Amériques, c'est autant les États-Unis que l'Amérique du Sud. On parle des Caraïbes, on parle pas de la Guadeloupe, de la Martinique. Mais les Caraïbes, c'est d'abord la Guyane, parce que les Indiens venaient de Guyane. C'est aussi le Panama, c'est aussi le Costa Rica, c'est aussi tous ces endroits, quoi. Donc ça, c'est ce qui distingue un peu mon travail des autres graffeurs. J'essaie de réunir, en fait, tous ces Amériques sous un seul chapeau avec diverses approches esthétiques. Donc là, vous voyez une image qui correspond aux années 80, toutefois, même si c'est pas du graffiti. Donc c'est une image d'archive tirée de l'album de famille. Parce que je fais un travail très personnel, donc du coup, j'utilise les archives de la famille pour explorer qui je suis, et aussi travailler autour de esthétiquement de ces objets, quoi, qui pour moi ont des valeurs esthétiques propres. Donc voilà, là ce que vous voyez, c'est une image tirée de l'album de famille, donc sur laquelle on voit ma sœur danser avec un cousin. Donc lors de zouk qu'on a organisé, ça c'est dans les années 70, fin des années 70 pour situer. Donc à savoir que les familles antillaises organisaient des zouks. Zouk, c'est d'abord un rassemblement avant d'être une musique. Donc voilà, c'est un rassemblement où on fait des repas, on joue de la musique et puis on s'entretient sur la situation familiale et la situation politique. Donc moi, je me rappelle à cette époque, donc c'est la fin des années 70, qu'il y avait aussi des amis africains qui nous rejoignaient lors de ces zouks. Puisque dans le cercle familial, et je pense que c'est pas exclusif à ma famille seulement, il y avait des jeunes étudiants aussi qui fréquentaient l'université et qui fréquentaient aussi des jeunes africains qui venaient étudier ici.
Et on est où là, par exemple ?
Là, on est au Palais de Tokyo.
Mais dans l'image, je veux dire.
Dans l'image, on est à la maison, là.
Et c'est où la maison, du coup, là?
La maison, c'est dans le 10e arrondissement de Paris. Donc moi, je suis pas de banlieue. Quoique j'ai beaucoup de familles qui vivaient en banlieue et qui venaient de banlieue dans ces fêtes. Mais je suis arrivé ici dans le 10e arrondissement de Paris.
Non, ça m'intéresse parce qu'en fait, c'est une chose qu'on va aussi discuter au fil de la semaine. Je pense aussi, notamment, demain après-midi, pour faire un premier lien avec William Les Henry, et on va discuter en fait des spatialités de la musique culturelle des Caraïbéens et l'importance de l'appartement.
Ah oui, c'est très important. Bah, pour cette exposition, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques amis et partager un peu le fait de cette installation, et finalement beaucoup d'amis me disaient que ces images leur étaient familières, quoi. Donc qu'ils avaient le même type d'image dans leur album de famille et qu'ils avaient vécu enfant aussi le même type d'événement, quoi. Donc ça, c'est une toute première image, mais je tenais vraiment à utiliser et à montrer un peu la richesse et les choses toutes naturelles, disons, de la tradition antillaise ici. Parce que ça, c'est quelque chose d'assez spécifique à ici. C'est une façon de se rassembler et puis de se réunir de nouveau, quoi, en étant distant des îles.
Et ça m'intéressait. Pourquoi ? Parce que quand j'en parlais avec Les Henry, qui parlera de l'arrivée, en fait, des Barbadéens et des Jamaïcains à Londres, et il expliquera, en fait, à partir des blues parties, donc les choses qui se passaient en appartement, ce mouvement vers le sound system à l'extérieur. Et le rapport entre se sentir chez soi ou pas chez soi, refabriquer, comme dans ma famille, dans des appartements, des microcosmes antillais, chauffage et odeur comprise. C'est-à-dire, non, mais ça, c'est important. Parce que la mémoire, elle fait. C'est-à-dire que moi, je me rappelle à l'époque, on voyait les publicités, c'était le début des crises pétrolières. Donc, on disait, vous chauffez à 18 degrés et tout ça. On regardait ça. Là, on se disait, non, mais chauffer à 18 degrés, c'était pas possible. Enfin, il faisait vraiment très chaud à la maison et c'était, il fallait être en tricot de corps dans la maison. Donc, il fallait chauffer pour que ce soit possible. Et l'odeur, quand on allait chez des cousins, est quelque chose qui, je trouve, est un, on n'a pas pu explorer dans le programme de cette session la question des odeurs, mais on le fera parce que c'est vraiment un élément de mémoriel très important.
Très très important, oui. On passe à l'image suivante. Donc ça c'est une... je parle de mes œuvres, hein, donc c'est assez auto-centré, mais... donc ça c'est une œuvre musicale toutefois, donc qui me permet de parler de des différents... de deux continents, disons. Hein, donc les continents africains et le continent américain. Et c'est une œuvre musicale parce que c'est une œuvre qui représente en fait les différentes périodes de certaines musiques arrivées aux Amériques. Donc on commence avec un peigne que j'ai récupéré au Sénégal. Je fais un petit peu le détail. Un peigne donc récupéré au Sénégal, donc qui représenterait le continent africain et sa musique. Donc toute l'essence de la musique panafricaine, donc les rythmes. Et ensuite un petit voyage dans le temps avec les différents outils pour se peigner qui correspondent à des styles vestimentaires, mais qui correspondent aussi à certaines formes de musique. Donc le peigne afro, ce serait plutôt la soul. Le peigne à défriser qu'on distingue difficilement, ce serait plutôt les années 50. Donc jazz bebop, il y a un peigne relativement simple qui pourrait correspondre à une autre époque, peut-être les années 20, les années 30. Et puis il y a la tondeuse, la fameuse tondeuse qui nous ramène dans les années 80, donc ça c'est plus le hip-hop.
80,
quoi.
C'est ce que j'allais dire, ça, les années 80 c'est le moment où on se rase du coup.
Voilà, on se rase la tête. Alors c'est musical, c'est graphiquement ça paraît pas, mais il y a aussi une portée politique. Parce qu'à travers ces coiffes, hein, ces différentes coiffes, il y a des mouvements d'émancipation qui n'accompagnent pas, mais qui font partie intégrante en fait de la libération intellectuelle, la libération physique et culturelle des Noirs dans les Amériques, pour le coup.
C'est intéressant parce qu'on le notait ce matin avec Françoise Vergès. C'est qu'en réalité, l'idée qu'il y ait une séparation franche entre les mouvements politiques d'émancipation et la question culturelle est presque une chose qui s'est produite après. Mais à ce moment-là, en fait, il y a une espèce de concordance, en fait, des mouvements culturels avec des mouvements politiques et, comment dire, et d'émancipation. Qui ont pas forcément le même projet, mais une concordance au sens que des événements à portée politique ont toujours une dimension culturelle. Il y aura toujours concert, il y a de la musique, il y aura toujours des formes qui vont naître de ça.
Alors moi je suis pas académique, donc mes recherches sont peut-être un peu en décalage avec ce qui se fait naturellement, mais dans ce que j'ai pu observer, c'est que les mouvements culturels, picturales, musicales musicaux, pardon, ont toujours été en synchronicité avec ce qui se passait réellement. C'est plus une question générationnelle où les générations, pour être en rupture avec celles qui les ont précédées, trouvent une autre forme d'expression. Et du coup, ces formes d'expression deviennent, underground. Donc elles ne ressortent pas par au-dessus, donc on a l'impression que c'est une autre lutte ou que la lutte n'existe plus, mais néanmoins à travers la musique, on retrouve toujours quand même ces revendications. La lutte continue toujours, quoi. Et ça on le voit avec le hip-hop qu'on a l'impression que ça ressurgit dans les années 90, alors que dès le départ dans le hip-hop il y avait déjà des revendications assez fortes, quoi.
On va venir à cette question du hip-hop. Ce qui m'intéressait aussi et ce qui nourrissait un élément d'introduction dont je parlais avec le rôle et l'influence, là pour le coup, dans l'espace universitaire de Stuart Hall, je crois pouvoir dire que c'est aussi parce qu'il est d'origine jamaïcaine que la question de séparer en fait l'événement esthétique, l'événement culturel, de l'événement politique ou intellectuel n'était pas possible pour lui. Et il aperçoit ce qui peut paraître très logique aujourd'hui à travers les cultural studies, qu'on ne peut pas, imaginer la production artistique et culturelle en dehors de son contexte sociopolitique. Ça paraît évident, alors que l'histoire de l'art occidental, depuis le 19e au moins, a fait cette différence-là très claire en considérant qu'il y a une histoire de l'art, qui est d'ailleurs étudiée comme telle, dans des écoles dédiées, dans des cursus dédiés, et qu'il y a une histoire, on va à Sciences Po pour parler de la politique, etc. Et Hall, lui, directement, dit, voilà, on peut pas étudier des formes sans leurs conditions d'apparition. Et ça, que ce soit toi, que ce soit Chuck, c'est aussi ça que j'ai envie de discuter avec vous. Quelles sont les conditions d'apparition ? À des moments donnés, une certaine forme.
Alors, ce que disait Françoise tout à l'heure, pas, vis-à-vis de la question culturelle où les pouvoirs en place ont tendance à utiliser. Là, je parle plutôt des francophones parce que c'est quelque chose qui est propre en fait à notre diaspora. C'est vrai qu'on a tendance à mettre en avant des formes de divertissement à travers la musique où les luttes ne sont pas forcément représentées. La différence près qu'en Guadeloupe, on a une musique qui est forte, qui s'appelle le groka, qui a toujours été une forme de musique revendicative, quoi. Et même si elle a été rejetée à un moment donné, en tout cas on a essayé de la mettre sous silence, justement pour ces raisons, elle a toujours existé, c'est vraiment la musique de la Guadeloupe. Le groka, c'est ça. Comme d'autres formes existent dans d'autres types de régions. Voilà. Donc voilà, mon œuvre, mes œuvres sont toujours teintées de musique parce que c'est là où je trouve la nourriture en fait pour pouvoir m'inspirer et aussi comment dire découvrir qui je suis en fait et ce sont ces instruments qui m'aident aussi à m'émanciper d'une forme d'oppression que j'ai toujours sentie, et c'est l'oppression du système. Alors, moi, je suis artiste, plasticien, et il existe aussi un système. Donc, tu parles du système, de l'art vu par le prisme occidental. Donc ça, c'est un système auquel j'ai eu affaire, et j'ai voulu m'émanciper, en fait, de ce système aussi, quoi. Et la musique m'aide, me nourrit, me donne la force pour pouvoir produire et rester distant de tout ça. Donc voilà, ça c'est un petit florilège de différentes œuvres que j'ai faites récemment. On est toujours pas encore dans le graphe, mais on le fera la transition pour Chuck, ça va venir. Donc voilà, des œuvres qui sont toujours teintées en fait d'images. Pour moi, c'était important aussi d'avoir l'image de l'homme noir, parce que même si j'ai fréquenté assez tard les galeries dans les début des années 80. J'aurais très peu d'images d'hommes noirs, donc penser des Antillais. Et donc c'était toujours important pour moi, ça m'est arrivé assez tôt, de me dire qu'il fallait une représentation franche de figures noires qui racontent des histoires, qui racontent nos histoires. Donc mon travail, il est assez franc, il est assez ancré dans une forme de réalité. J'essaye d'éviter l'abstraction au maximum, parce que justement, cette représentation, cette présence de l'homme noir dans certains espaces dédiés, pour moi, est très importante.
Et tu as vu changer, justement, la réception de cette proposition de présence de l'homme noir, parce qu'on sait bien qu'on est dans une période qui est très différente de la réception de la représentation noire aujourd'hui, qui se voudrait plus accueillante tout en étant peut-être plus troublante. Est-ce que tu as vu ce paradigme changer ?
Alors, comme disait François tout à l'heure, oui, on a l'impression que... Et peut-être que les choses changent. Finalement, en tout cas, pour les plus jeunes, je pense qu'il y a plus de... il y a des plateformes, il y a des choses où ils peuvent s'exprimer. Donc j'ai vu graduellement, et je dirais en France, c'est peut-être 5 dernières années où j'ai vu cette histoire de la représentation de l'homme noir discutée. Et aujourd'hui, ça a l'air d'être quelque chose de réel. Hein. Mais c'est une question auquel j'ai eu affaire il y a quelque temps lors de mes voyages. premier voyage, c'était en Angleterre. D'ailleurs, lors d'un de ces premiers voyages, c'est là où je me suis rendu compte que les Antilles, c'était aussi les Amériques, quoi. En rentrant en contact avec des Dominicains et des Trinidadiens. Et à cette époque, j'avais encore 17 ans. Et c'est un voyage très important pour moi, parce que ça a initié chez moi cette idée politique et sociale que j'avais de moi-même et de mon identité. Donc oui, les choses bougent, parce que la France doit bouger en termes, là je parle du système, ils ont pris du retard sur les anglophones, ou même sur les néerlandais. Donc du coup, je pense que c'est plus une histoire commerciale qu'autre chose. Je suis pas certain que ça soit une vraie remise en question, parce que pour remettre en question l'image de l'homme noir, il faudrait remettre en question beaucoup de choses, et je suis pas sûr que ici en France on soit prêt à faire ce travail.
Ouais, comme le disait Françoise, c'est au prix de la remise en cause du capitalisme racial.
Oui, non, c'est parce que c'est une vraie question. Bon, j'ai pas trop envie d'entrer dedans parce que c'est pas ma spécialité, et puis il y en a qui en parlent beaucoup mieux que moi, mais clairement. On sait que voilà quoi, si on met certaines questions sur la table, ça remet en cause une économie mondiale. Enfin bref, beaucoup de choses quoi.
Mais ce qui m'intéressait, c'est que tu cites, et c'est vrai que ça fait partie des choses que moi j'ai essayé de repérer dans ce travail de cartographie qu'on évoque depuis ce matin. Tu citais ce voyage, voilà, en Angleterre. Tu vas à Londres, c'est ça, à ce moment-là?
Je vais à Bradford.
Et c'est intéressant parce que du coup, je trouve que c'est dans la mise en récit d'un parcours, on laisse parfois de côté, pas volontairement, parce qu'on se situe sur d'autres lignes, laisse de côté des endroits de correspondance comme ça. Et quand tu le cites, moi, je me suis beaucoup intéressé pour préparer, dans la recherche que j'ai fait, pour préparer aussi cette semaine, à des épisodes de voyage. Par exemple, jeudi après-midi, on parlera comment les militants du mouvement d'immigration de banlieue, très majoritairement algériens, se sont retrouvés à aller rencontrer les gens de Race Today, LKG et toutes ces personnes-là, et se sont formés politiquement auprès de la diaspora jamaïcaine noire, chose que peu de gens savent, et c'est franchement pas comme ça qu'on raconte l'histoire de ce mouvement. Et je trouve que c'est intéressant de prendre ces petits déplacements et mouvements. Moi, j'ai commencé par moi-même quand j'ai réfléchi au projet, pour pouvoir reporter la question aussi aux autres.
Oui, non, c'est question. En fait, tout est lié. Tout à l'heure, les premières interventions, là, en fait, moi, je me suis un peu reconnu à travers certaines choses. Je pense que c'est des lieux communs, en fait, des histoires communes, même si on est chacun distinct. Mais non, les déplacements, c'était très important pour moi, ça m'a formé, ça m'a ouvert les yeux, parce que je pense issu d'un espace francophone. Donc, comme disait Samora tout à l'heure, la parole franco-antillaise, elle est un peu éteinte. En tout cas, cette relation qu'il y a entre les aînés et les plus jeunes, il y a beaucoup de tabous, donc beaucoup de choses ne se disent pas. On les entend, hein. Mais Timoun Pam et Léo a dans affaire Grand Moun.
Donc ça, ça va être compliqué pour le traducteur, mais
donc, les enfants ne se mêlent pas des affaires des adultes. Donc on entend les parents parler de certaines histoires qu'ils nous racontent pas, qu'ils nous transmettent pas. Donc que ça soit des faits politiques, des faits de famille aussi, qui sont relativement graves, quoi.
Mais ce qui est assez intéressant dans ce que tu dis là, c'est qu'on touche à un endroit que je pense Samora avait aussi à l'esprit. On cherche tout un ensemble de motifs. On ne peut pas faire l'économie de la particularité de la structure familiale antillaise, qui est un sujet voilà, extrêmement délicat, mais où la question générationnelle est très marquée. Je pense qu'elle s'inscrit dans une histoire française, mais avec peut-être une persistance du fait que l'expérience partagée de ne pas avoir eu la parole... voilà, les repas où les enfants ne parlent pas, ça c'est quelque chose qu'on partage. Et donc du coup, le fait aussi que des discussions ne se passent pas, la question de la transmission est questionnée aussi dans cette forme-là.
Oui, enfin, moi j'ai dû faire un travail sur moi-même, parce que je parlais tout à l'heure de schizophrénie, je pense que je l'ai été longtemps, peut-être que je le suis encore, ou me cherchant, voyant des images, voyant des séries télévisées qui parlaient de l'esclavage, qui parlaient de... de lutte, hein, puisqu'il y avait encore l'apartheid de... lorsque je suis arrivé ici. Donc essayer de me situer en fait en tant que jeune homme noir à l'époque, essayer de comprendre qui j'étais. Alors je me suis pas considéré comme étant guadeloupéen à une époque, parce que je considérais que l'île, on avait été des déportés, quoi, en fait, que l'île appartenait à des gens qui ont été décimés, qu'on a fait disparaître. Aujourd'hui, je me sens vraiment africain, sachant que ça, qu'on vienne là-bas, même si je suis métissé par la force des choses. Mais c'est les voyages qui m'ont en fait construit, qui m'ont permis de me réconcilier avec moi-même. C'est aussi pour ça que dans mon travail, j'essaie de trouver une sorte de balance et j'essaie d'être. Donc mon travail, même s'il est teinté de politique, j'essaie de faire en sorte qu'il ne le soit pas trop. J'essaie de regarder plus vers le spirituel et vers le mystique. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la musique, parce que j'ai l'impression qu'il y a une énergie spirituelle qui se dégage de la musique, que ce soit des rythmes, que ce soit des voix ou certains concepts. Donc pour en revenir au hip-hop, le concept du hip-hop créé par Afrika Bambaataa se repose beaucoup sur des concepts musicaux existants, des concepts de Sun Ra, les concepts de la funk de George Clinton. Donc on retrouve cette idée de famille et de communauté qui partagent dans les musiques, mais c'est des choses qui existaient déjà aussi dans les fameuses house parties que faisaient les Américains ou les zouk que nous on faisait, quoi. Donc voilà, ça c'est l'espace où j'ai trouvé une forme, une certaine, beaucoup de liberté même, pas une forme, beaucoup de liberté et aussi beaucoup de nourriture, quoi, pour moi-même.
Il y a un endroit qui me vient à l'esprit en t'écoutant et qui était aussi pour moi l'intérêt que voilà que j'ai eu aussi pour la culture hip-hop à cette époque-là, qui était la question de faire avec les moyens disponibles. Donc un rapport à la fois de peu, de précarité, mais un désir radical d'autonomie. C'est-à-dire je fais avec ce que j'ai. Ce n'est pas qu'une limite, c'est aussi une réalité parce que l'important, c'est de pouvoir produire de manière autonome. Et j'ai l'impression que la question de l'autonomie dans ton travail est quand même très présente.
Oui, très présente. Alors, je pense pas que moi. Hein. Donc là, on arrive au graffiti. Le hip-hop, comme le mouvement punk d'ailleurs, quoi, un mouvement punk anarchiste anti-capitaliste, ils se rejoignent quelque part. C'est une nouvelle vision. D'une jeunesse d'une certaine époque qui veut s'émanciper de ce système capitaliste et à travers la culture, à travers la musique, à travers des codes vestimentaires complètement différents. Et là, du coup, utiliser des outils aussi différents et quitte à transformer les choses. Donc c'est vraiment la culture du mix. La culture du hip-hop, c'est une culture, les Caribéens, que ça soit les Trinidadiens, les Jamaïcains, les Portoricains et Dominicains aussi à New York ont été centraux hein, dans la réalisation de cette culture américaine. Ils étaient là dès le départ. Ils ont contribué, que ça soit à travers la danse, le graffiti ou la musique, à faire que ce mouvement puisse être international. Parce que en fait, c'est un mouvement de liberté totale. Que beaucoup de jeunes ont embrassé dans le monde entier, qu'ils viennent de Chine, un peu plus tard, ou en Italie, en France, quoi. Et l'arrivée de cette culture était importante pour nous ici en France, parce que ça permettait aux jeunes antillais, pour revenir sur le sujet qui nous intéresse, de pouvoir s'exprimer pour une première fois. Alors on consommait de la musique, on participait aussi en dansant, mais là on pouvait créer. Donc le graffiti, c'est le musée à ciel ouvert, c'est la démocratisation de la culture via le hip-hop. Donc avec peu de choses, on peut se mettre à danser et montrer à quel point on excelle et dire qu'on existe. Et pareil pour le graffiti, pour le rap ou le DJing.
Ce qui m'intéresse dans ce que tu dis aussi, et c'est quelque chose que moi j'ai retrouvé de plusieurs manières dans mon travail de recherche, c'est finalement la mésestimation ou la sous-estimation voire l'effacement en fait de la centralité de la Caraïbe, que ce soit dans les études noires, Black Studies, et là dans la culture hip-hop où tu cites quand même un foyer, on le sait aussi, ça va être avec Kool Herc quand il va amener aussi les Sound System à New York, qui va quand même être l'une des origines fortes du rap. Avec la distance, ça se fait absorber par le contexte, africain-américain, oui. Et disparaît la particularité que tu cites, qui d'ailleurs toute la Caraïbe, c'est-à-dire Caraïbe hispanophone, oui. Francophone et anglophone. Cette disparition-là, en fait, elle est, je trouve, dans la manière dont on va faire la narration des cultures liées à la sphère du hip-hop, elle est assez notable quand même, qui devient finalement l'idée d'une influence américaine, mais là au sens nord-américain.
Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs. Mais je pense que sous le couvert du capitalisme, déjà, d'une part, le hip-hop devient quand même un marché important qui génère de l'argent. Et du coup, les Américains, ils sont au premier plan pour tout ce qui est commercialiser certaines choses, dont la culture. Et donc, petit à petit, avec cet effet de commercialisation du hip-hop, l'histoire va commencer à disparaître. Alors, d'un point de vue plus politique, je me suis rendu compte aussi, et ça c'est aussi à travers du prisme du capitalisme, que cette solidarité noire qui aurait pu exister dans les années 50, 60, 70 pour les luttes, elle a aussi aujourd'hui tendance à se dissoudre. Alors c'est peut-être dans un climat nationaliste où on voit que beaucoup de nations essaient de se replier sur eux-mêmes, mais j'ai été étonné de voir que chez les États-Unis aussi, nos frères afro-américains, il y avait des groupements qui voulaient se distinguer et qui étaient limite xénophobes contre les frères africains qui viennent s'installer aux États-Unis ou caribéens qui viennent s'installer puisqu'ils leur reprochent de ne pas avoir vécu ce qu'eux, ils ont vécu. Là, je parle de générations de gens comme moi qui n'ont pas vécu ce que leurs parents ont vécu. Mais en tout cas, ils reprochent aux afro-diasporiques dans les États-Unis de ne pas avoir vécu. Alors que si on regarde bien au niveau des luttes, cette solidarité existait et que on les a accompagnés lors des luttes, quoi.
Oui, mais ça, c'est évidemment un motif qui m'importe beaucoup dans cette cartographie. C'est comment ce qui existait comme lien, comme intersection, comme rencontre, souvent, en fait, aussi à des échelles micro. C'est-à-dire qu'on sait qu'une scène, il n'y a pas besoin de plus que 10 personnes dans une même ville à un moment donné pour qu'une histoire d'un mouvement naisse. On surestime le nombre de personnes au départ. Après, ça devient global. Et ça m'intéresse de revoir en fait ces connexions. C'est pour ça que je soulignais l'importance caribéenne, non pas par chauvinisme, mais parce qu'elle permet de reconstituer en fait des connexions plus riches que la chape nord-américaine qui a été mise sur le mouvement hip-hop, en quelque sorte, qui a fait que finalement, par exemple, le mouvement hip-hop français, pour beaucoup de gens de l'extérieur, était un bébé du mouvement américain, alors qu'il est quasiment simultané. Il y a très peu d'années qui les séparent.
Oui, il y a très peu d'années. Et puis, bon, là, je vais parler en son nom, mais je me rappelle qu'Afrika Bambaataa, lorsqu'il était arrivé ici, donc je pense 81, 82, il était étonné, en fait, lui aussi, venant des États-Unis, de voir le nombre de jeunes afro-antillais ou même maghrébins que lui, peut-être, il voyait comme des jeunes hispanisants. Mais il a tout de suite capté cette richesse. Et du coup, il a quand même beaucoup, il a quand même beaucoup poussé ces jeunes à continuer à faire, parce que le hip-hop, c'était aux États-Unis, c'est un début, c'est le début d'une chose. Donc, lorsqu'ils venaient ici, il les poussait à chanter déjà, rapper dans leur langue, parce qu'à l'époque, beaucoup essayaient de rapper en anglais. Il leur disait que c'était important de pouvoir transmettre des messages dans leur propre langue et d'utiliser aussi la richesse de leur tradition et de leur héritage, que ça soit à travers leur musique pour pouvoir sampler les disques de leurs parents, parce que eux, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. À l'époque, ils samplaient les disques de leurs parents. Et donc, il a fait tout ce travail. Donc, c'était quelqu'un d'assez conscient, même si on pouvait le percevoir comme un personnage un peu une sorte de luberlu.
Fantaisiste.
Fantaisiste, voilà quoi. Mais il avait une vraie conscience politique et sociale même.
Jacques, tu veux réagir à ça, peut-être, justement ?
Ce que tu dis déjà est très vrai. Et puis, c'est. En fin de compte, je voulais surtout revenir sur les luttes liées, quoi. C'est que, en fin de compte, la séparation, un peu, quand tu dis que les Américains étaient. Ils refusaient ou ils acceptaient pas leurs frères caribéens ou qui arrivaient des États-Unis, alors que quelque part c'est un manque de culture, je dirais même, parce que quand tu vois tout ce qu'a apporté des gens comme Fanon, comme aux États-Unis, même l'histoire, et puis nous on a vécu des luttes, par exemple en Afrique ou aux Caraïbes, que eux-mêmes ils ont connu bien en temps après, parce que je prends un exemple bien concret, les Black Panthers, c'est quand ils lisent France Fanon qu'ils montent. Huey Newton et les autres, c'est quand ils lisent Peau Noire, Les Damnés de la Terre, qu'ils montent le BPP parti.
Oui, alors moi je parlais d'une nouvelle génération, hein, c'est ce que j'ai vu très, très récemment, mais ils sont pas si ignorants que ça, puisque dans leur... ils connaissent cette histoire. Mais là je parle de... notamment Eidos, donc African Descendant of Slaves. Donc ça, c'est un groupement spécifique aux États-Unis. Non, ils connaissent cette histoire. Ils le savent, mais ils refusent. Parce qu'ils savent que Marcus Garvey est jamaïcain. Ils savent que parmi les Black Panthers, il y avait des Trinidadiens. Ils connaissent très bien cette histoire. Mais c'est, je pense que c'est c'est un mode un peu capitaliste, tu vois, de se faire de l'argent. En fait, ils le reprochent de venir prendre le travail. Je crois qu'ils font une séparation aussi entre les luttes pour la réparation. Donc cette question de la réparation, chez eux en tout cas, ce groupement est vu de façon américain-états-unien. Donc après, il y a des questions techniques qu'on peut comprendre. Mais voilà, leur position, c'est que leur histoire, elle est unique, c'est leur histoire. Ça n'a rien à voir avec les Caribéens et les Africains. Et que voilà quoi. Et comme j'ai dit, bon là, on parle de technicité, mais ça a des accents de xénophobie, puisqu'ils refusent la migration, ils sont contre les Mexicains, enfin bref, toutes ces luttes qu'on a pu connaître pour l'émancipation et la libération des corps et des esprits dans les années 50, 60, 70, tout ça, comme tu dis, ça a tendance à s'étioler et à disparaître, en fait. Chez certains, heureusement, il y a des gens qui résistent encore à ça, mais moi, j'ai été étonné, en tout cas, de voir ça. J'aurais pensé qu'on aurait été vers une internationalisation, justement, des êtres, hein, tout court, hein. Mais voilà, je pensais pas que ça deviendrait de personnes qui, selon moi, connaissent l'histoire, quoi.
Mais ce qui est intéressant, ce que tu notes, et tout à l'heure, Samora l'a un peu noté d'une autre manière, en disant qu'il y a un regain d'un intérêt pour l'histoire des luttes, mais plutôt dans un régime fétichiste. Moi, c'est ce que j'appelais dans mon introduction la métaphorisation. C'est-à-dire, quelque part, une forme d'intérêt dont on n'a pas pris assez la peine de regarder ce qu'elle contenait, ce qui va avec la question de la visibilité, si on ne dit rien d'autre que visible, mais la visibilité peut avoir une fonction tout à fait juste. Simplement, en fait, si derrière ce qu'on visibilise, c'est aussi des choses qui deviennent des propriétés, qui deviennent des espèces de signatures. Là, comme tu le dis, aux États-Unis, la capacité à créer des enclos, comme dirait Marx, quoi, de redéfinir des espaces clos, c'est aussi le propre même d'un système qui capitalise sur les choses. Et peut-être la chose que tu n'avais pas vu venir, mais je pense pas beaucoup d'entre nous l'ont vu venir, c'est qu'il puisse y avoir une économie de choses qui sont des luttes, puisque la lutte était justement faite pour défaire les puissances mortifères d'une certaine économie, que cette économie-là soit capable d'absorber les luttes elles-mêmes, je vois pas trop de gens qui l'avaient anticipé, en tout cas moi j'en connais pas, et on a tous été surpris de la plasticité en quelque sorte néolibérale.
Ouais. Oui, ça me rappelle Angela Davis qui disait qu'en voyant sa photo sur... En fait, son image sur les t-shirts, ça l'avait un peu choqué, quoi. Voilà. Mais non, mais c'est des réalités de toutes les façons. Voilà, on est dans la nature de l'homme d'une certaine manière. Donc la diaspora, elle n'est pas plus parfaite qu'une autre. Donc voilà.
Alors, c'est quoi les images que tu nous montres?
Alors, les images. Alors, pour revenir aux années 80, ensuite, laisser la place à Chuck. Donc, ça, c'est les années 80 que moi, j'ai vécu avec, pardon.
Okay. Non, c'est, on a dit honneur aux anciens, là.
D'accord. Donc voilà, ça, là on est dans le graffiti depuis un petit moment. Donc le graffiti qui m'a permis justement de m'affirmer en tant que qu'être et en tant qu'artiste aussi, si on peut dire. Donc à travers les voyages, donc j'ai vécu à Berlin, ce qui m'a un peu rapproché de mon identité antillaise, étant isolé et vivant dans un climat complètement différent de Paris, donc de la Guadeloupe, froid mais à tous les niveaux. Donc j'ai cherché à ce moment-là, justement, à trouver un peu de chaleur là où je pouvais. Donc, c'était beaucoup, beaucoup à travers la musique antillaise, la musique afro-latine, quoi. Et donc, ça, c'était une période un peu... c'est une période d'innocence.
T'arrives à Berlin à quelle époque
J'arrive à Berlin en 87.
D'accord.
J'arrive à Berlin en 87. J'ai déjà fait un petit peu quelques voyages ici et là. Donc, Bradford, Londres. Quelque peu l'Italie et puis Berlin, quoi.
Donc 87, déjà le graffiti a eu ses premières heures quand même à Paris.
Oui à Paris, je pense que le graffiti était installé bien comme il faut, avec de la résistance, parce qu'il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin qu'on appelait déjà à l'époque le tag. Donc c'est juste les signatures un peu on va dire rebelle, c'est toute la frange rebelle et anti-système du graffiti qui est in your face, quoi, et que l'État refuse, mais il refusait aussi avec ça le tout, quoi.
Donc les graffitis, c'était une pratique territoriale, le tag.
C'était aussi ça, c'était aussi une façon de se réapproprier. En tout cas, nous, quand on a commencé à taguer, parce qu'on a commencé à graffer, donc ça, c'est ce que vous voyez, c'est les peintures. On va dire plus sophistiqué, la peinture. Ça, c'est le graffiti. Et les tags, c'est juste les signatures. Donc, nous, on a pris ça des États-Unis par le graffiti. Donc, les peintures. Donc, on a commencé à peindre avant d'avoir conscience de la réalité du tag, qui est la forme primitive, entre guillemets, du graffiti. Mais qui a aussi une portée beaucoup plus, plus intéressante d'une certaine manière, parce qu'il est plus rapide à faire. Et puis, il se met un peu partout, quoi. On peut rentrer dans les transports et taguer, dire qu'on est passé par là. On peut écrire un message aussi.
Ça, j'en connais certains qui vont nous parler de ça tout à l'heure.
Voilà, quoi. Donc ça, c'est une forme rebelle. Et quelque part, c'est assez humain de vouloir écrire quelque chose. Alors, vouloir écrire son nom, c'est dire qu'on existe, venant de là d'où on vient, et qu'on appartient aussi à l'espace culturel qu'on se réapproprie dans la ville. Ça, c'est une façon de dire les choses. Et puis aussi, on peut clairement écrire des revendications contre le système ou contre d'autres choses qui peuvent nous énerver, quoi. Et ça, c'est plus à travers le tag qu'on le voit.
Alors moi, ce qui m'intéresse dans cet endroit du graffiti, et toi, tu parles aussi de la musique, c'est qu'en fait, quand on parle de représentation noire et encore plus de représentation afro-caribéenne, on ne souligne pas assez peut-être l'importance, je dirais, du sonique et du graphique. Là, je reprends aussi la réflexion de Fred Moten autour de la question du sonique et du graphique, c'est-à-dire que la question même de portraiturer de l'image réaliste est déplacée vers d'autres types de représentations.
Alors, le graffiti, une chose que j'aime bien répéter, c'est de la danse. Donc c'est un alphabet, c'est des lettres, on apprend tous à écrire, on écrit tous. Mais en fait, il y a une forme d'écriture dans le graffiti qui n'appartient ni à la calligraphie, qui peut être une danse aussi, ni à la typographie, qui est plus commerciale. Donc c'est une façon de faire danser les lettres, de se réapproprier un mot, des lettres, une phrase, et de le faire danser. Donc j'ai tendance à donner cette interprétation, et d'autres l'ont aussi, de faire danser les lettres. Et on les fait danser dans sa tête avec un rythme. Alors ce rythme, c'est l'électro. C'est un rythme électrique. C'est le hip-hop. C'est zap. C'est la house music. Donc pour capter cet esprit et pouvoir la retranscrire dans les lettres, il faut entendre la musique. Il faut la laisser entrer en soi, quoi. C'est comme ça qu'on réussit à faire un bon graphe. Sinon, ça devient de la typographie, ça devient une reproduction publicitaire d'une certaine manière de son nom. C'est une forme qui existe aussi dans ce mouvement, de juste écrire son nom, que ça soit lisible par d'autres non-initiés. Mais la forme la plus excellente, c'est ne pas pouvoir lire la lettre. Et ça, on rentre dans la danse et la musicalité.
Mais là, tu rentres aussi dans un autre aspect qui, évidemment, je l'attrape au vol, c'est, tu viens de dire, les initiés. Et donc là, il y a la question aussi du codage. Tout à l'heure, tu as prononcé une phrase en créole. Et j'avais envie aussi d'aller du côté, en fait, de cette idée de... Ou c'est quoi, ceux qui savent, savent. qui est aussi cette question de composer une communauté à travers des... Là, moi, je parlais en introduction, et Sheila a repris cette expression qui vient d'un de mes textes, de communauté d'interprétation. Pour moi, le graphe, c'est aussi quelque chose qui est aussi une communauté d'interprétation, au sens qu'en fait, tout le monde ne voit pas, tout le monde ne lit pas, tout le monde ne danse pas avec la lettre de la même manière. Là, tu parles du geste de celui qui dessine, mais il y a le type d'œil qu'on va développer.
Oui, alors celui qui dessine, il est dans l'excellence, mais malgré tout. Donc ça a beau être codé, on va se ramener vers la musique. La musique, on a beau ne pas avoir grandi avec certains rythmes, le rythme, c'est quand même la vie. Donc tout le monde est censé l'avoir en soi. Et donc celui qui fait un graffiti, s'il se rapproche en fait de cet esprit musical, il est censé retranscrire quelque chose d'agréable malgré tout. Donc même si c'est pas compréhensible, il est censé transcrire quelque chose, un esprit, une énergie. Et cette énergie, elle est censée être positive. Voilà.
Très bien. Tu veux qu'on voit quelques autres images?
Alors, donc cette image, je l'ai pas mise pour vous montrer qui j'étais quand j'étais jeune.
Je me suis dit, bon, vous savez, j'étais beau avant. Hein.
Mais c'est juste pour dire, pour revenir aux années 80, alors pour les artistes, en tout cas les graffeurs qui se voulaient artistes, c'est-à-dire avoir une pratique, on va dire, plus conventionnelle sur des supports plus classiques, les toiles et les supports domesticables, disons, on avait quelques difficultés à se procurer des ateliers. Ce qui est aussi vrai pour des artistes ayant fait les Beaux-Arts. Donc, dans les années 80, c'était encore très compliqué. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on occupait souvent des squats. Donc ça, c'était assez fréquent à l'époque. Les squats, dans les années 80, les squats, c'était pour les artistes. Ça arrivait même un peu plus tard, parce que ceux qui faisaient de la musique et des soirées, notamment des sound systems dans les années 80, souvent, ils occupaient des squats plutôt dans les quartiers nord-est de Paris, peut-être en banlieue aussi, mais dans le 18e, dans le 19e Danube. Et ça, c'était aussi une forme de... C'était une façon naturelle de revenir à ce qui était aussi le hip-hop dans ses débuts, c'est-à-dire de faire avec peu de choses et d'investir des lieux, de se les approprier et de faire vivre ces lieux, mais aussi de vivre dans ces lieux sa culture. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'avais connu donc à Bradford, les sound systems, hein, avec tous les groupes de reggae que j'avais découvert en allant là-bas. Et dans ces squats, souvent, il n'y avait pas seulement les valeurs esthétiques qui étaient discutées, mais on parlait très souvent de politique. C'est vrai qu'on avait un âge un peu plus mûr aussi, donc plus conscient de la chose politique pour certains, pas tous, parce qu'il y en a qui sont nés dans des familles très politisées. Mais toute cette conscience, elle s'est établie et elle a grandi dans cet univers, avec la musique aussi qui s'est beaucoup radicalisé. Là, je parle du rap qui s'est beaucoup radicalisé à travers les textes. Donc, avec des groupes comme les Jungle Brothers, Public Enemy, Queen Latifah. Voilà.
Ce qui m'intéressait aussi dans ce que tu as évoqué là par rapport au squat, et c'était aussi un aspect que moi j'avais souligné dans un des textes que j'ai publié dans le cadre de cette recherche pour le fellowship, qui s'appelle Entretenir une archive, c'est que ça m'intéressait de voir le paradoxe de regard qu'on avait sur les pratiques du graphe comme étant des nuisances, alors qu'en fait, elles participaient à un entretien. Tu disais, le squat, on soigne l'endroit, donc peindre là est quand même plutôt une une manière de soigner l'espace, de le rendre habitable en quelque sorte. Alors que le squat, c'est le bâtiment qui n'est plus habité, qui est en fin d'une certaine vie, souvent industrielle, qui va redevenir un espèce de lieu de vie. Et le geste du graphe est pour le coup un geste de soin pour ça.
Oui, c'est ce que je te disais. Donc c'est un geste de soin pour soi déjà, hein, en premier lieu, mais c'est censé aussi l'être pour la personne à qui on l'impose dans la ville. Parce que il y a une forme assez, je dirais assez violente, qui est revendiquée dans l'expression du graphe. On va imposer la lecture de cet alphabet aux yeux de tous, et tout le monde doit le voir. Donc ça se fait sur les voies de chemin de fer, les bords d'autoroute, et tout le monde a droit à cette culture.
Ce qui est drôle quand tu dis ça, parce qu'évidemment on aura tout un espace pour discuter de quelle manière ces écritures-là en fait épousent et quelque part créent, moi, ce que j'appelle des intimités avec les matières de la ville. J'avais écrit et j'ai lu ici pour les étudiants le texte que j'ai écrit pour l'exposition de Kader Attia, les racines poussent aussi dans le béton. Et dans cette expression de Kader disait aussi combien toute une génération de gens auxquels tu appartiens, j'appartiens, avait dû créer des formes d'intimité avec des matériaux dont on presque inhumains au départ, qui étaient juste fabriqués dans une forme brutale et dont on avait dû quand même créer des espèces de relations. Le graphe, c'est ça aussi.
C'est ça aussi, oui. En fait, alors le graffiti, le graffiti, c'est quand même dans un espace, un espace francophone, j'aimerais dire. C'est-à-dire, c'est un espace un peu silencieux. Quand je dis francophone, parce que beaucoup de choses sont sous silence ici en France. Donc le graffiti, c'est un espace silencieux, mais la perception qu'on a des graffeurs et du graffiti, elle est un peu biaisée, quoi. Elle est un peu biaisée. Et en discutant et en analysant, en faisant des recherches, on se rend compte qu'ils ont une vraie relation. Il y a quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut percevoir, quoi. Donc cette relation dont tu parles avec l'architecture, avec l'espace urbain et les communautés aussi, la façon dont l'espace urbain aussi est habité, parce que en France, particulièrement en tout cas à Paris, même s'il n'y a pas de ségrégation, les espaces quand même, on sent que voilà quoi, c'est les choses sont designées quoi, et donc cette relation qu'on a avec son environnement et ces espaces, ces matières aussi qui font cet espace. Elle est consciente chez beaucoup de graffeurs. La rue est très... Quand on parle de la rue, on pense souvent... les rappeurs, ils disent souvent la rue. La rue appartient aux graffeurs, il appartient pas aux rappeurs. C'est les graffeurs qui se promènent dans la rue pour trouver d'autres espaces d'expression. Et c'est eux qui continuent à se promener dans la rue, à déambuler dans la rue, à faire des kilomètres, à user les chaussures. Ça appartient aux graffeurs. Ça appartient pas à ceux qui sont au bas de l'escalier. Ça, c'est le bas de l'escalier. Ça, c'est pas la rue. La rue, elle nous appartient.
Non, mais c'est très intéressant. Là, moi, je pense qu'ici, à Ulip, il y a des départements d'études urbaines et je trouve que tout ce travail-là, j'aimerais qu'il y contribue, parce que c'est vrai que les différents lieux, en disant ben là c'est plutôt là que là, et ce qui m'intéresse, parce que là on voit des images aussi de terrains vagues, c'est comment aussi les graffeurs vont être les éclaireurs, hein, ceux qui vont trouver les endroits. Parce que ils observent, y compris depuis les métros à cette époque, ils observent des endroits de potentialité dans leur action.
Oui, donc là, ce que vous voyez, Enfin, je voulais restituer tout ça dans le contexte hip-hop. Donc, c'est des photos du terrain vague, un terrain vague de Stalingrad. Je crois que tu as prévu demain.
On va le visiter demain matin.
Voilà, demain de visiter.
Il n'existe plus comme terrain vague, mais on va aller sur le site.
Ce qu'il en reste, voilà. Donc, ce que vous allez voir si vous êtes là demain, c'était ça. C'était un espace où on se réunissait et on passait de la musique. On venait faire du graphe et on venait aussi échanger sur la culture essentiellement, c'est-à-dire les nouvelles sorties de disques, les prochains concerts et le style vestimentaire. Donc voilà, tout ça, c'est un peu cet environnement, avec quelques clubs qui s'ouvraient à cette époque aussi, dans les années 80. Parce qu'il y a eu quelques clubs où les jeunes Antillais se réunissaient. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Globo, au Bataclan, pardon, où il y avait déjà le jazz rock qui... C'était une autre culture musicale embrassée par beaucoup de jeunes Antillais. Ça, c'est dans les années 79-80, par là. Il y avait d'autres clubs aussi que moi, j'ai pas fréquenté. Mais le Globo, c'était un haut lieu qui avait permis aux jeunes... Alors, on parle d'Antillais, mais à savoir qu'il y avait aussi beaucoup de jeunes maghrébins et de Français issus des quartiers populaires. Donc, c'était un tout, quoi, de personnes qui se reconnaissaient et qui avaient aussi ce besoin... de culture, qui avait besoin d'un espace pour pouvoir s'exprimer. Donc on se retrouvait tous, on était jeunes et beaux.
Il y a une petite chose pour finir déjà ce premier round autour de ces questions-là qui m'intéressait parce que elle a trait à la question de la transmission. Moi je le vois avec mon frère aîné. C'est aussi la culture de transmission de père à père. On va dire la culture b-boy, qui me semble intéressante à partager, c'est-à-dire on n'entre pas sur un lieu qui a été trouvé si on ne passe pas par quelqu'un qui nous introduit ce qu'on appelle voilà, les b-boys.
On n'est pas censé.
Voilà.
Mais certains, ils le font.
Bah, oui, parce qu'après, non, mais après, si on ne veut pas avoir de problème, je n'avais pas fini ma phrase.
Voilà. Non, disons que les places sont chères, hein. Les espaces se sont réduits d'ailleurs, enfin là je parle du graffiti essentiellement, se sont réduits significativement. Les terrains vagues, il y en a, je sais pas s'il y en existe encore ici aujourd'hui à Paris, mais il y en avait de moins en moins. Il a fallu se déplacer un peu en banlieue pour pouvoir s'exprimer. Mais c'est vrai que cette question de la filiation, elle est quand même centrale dans toutes les pratiques du hip-hop. Donc il y a toujours quelqu'un de plus âgé qui transmet quelque chose au plus jeune et qui est censé le faire évoluer. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de groupe, de crew, dans lequel on fait rentrer des gens qui sortent, qui créent leur propre groupe et qui font évoluer un style, une vision. C'est pour ça que le hip-hop aujourd'hui, il a pris des aspects un peu différents. C'est plus le hip-hop de l'époque, mais ça reste encore le hip-hop qui reste le dernier mouvement culturel fort, quoi. Et on n'en a pas conscience, mais souvent il y a des choses et on ne sait pas que c'est hip-hop, mais c'est hip-hop. Pour revenir à cette question de filiation aussi, je voulais parler de cette image qui est importante pour moi, parce que c'est l'image de mon père, évidemment. Lui, pour le coup, c'est un Antillais. Et sur un Antillais, il aurait pu être dominicain, trinidadien ou jamaïcain. Ça, c'est sa Rolls, sa chaîne IFI.
Ça, je reconnais, j'avais la même à la maison et je pense voilà. Que c'était là.
Et je voulais dire une chose, mon père, il est pas DJ. On parle souvent de DJ jamaïcain. Pour le coup, c'est des DJ, ceux qui toastent, ou les DJ aux États-Unis, c'est ceux qui passent les disques. Mais mon père, comme tout bon père antillais, c'était quelqu'un qui faisait des mixtapes. Et les mixtapes, c'est depuis que les cassettes existent, même si on est dans le contexte européen, eux, ils faisaient des mixtapes de musique antillaise. Compas, calypso, reggae, salsa, merengue, biguine, guoka et musique africaine. Et ça, j'ai découvert en récupérant sa collection de mixtapes, il y en a à peu près une centaine, alors que moi, j'en ai une trentaine.
Ben merci beaucoup, Jay. On va continuer ce voyage avec Chuck. En tout cas, merci déjà.
Merci à vous. Merci. À vous, cher ami.
C'est très précieux.